Vous êtes bien sur Radio Campus et ses travers sur le 106.6 jusqu'à 14h. Nous sommes pour l'instant en compagnie de Valérie Dougnot, spécialiste de la culture japonaise, docteur en histoire de l'art contemporain japonais et diplômée en langue et civilisation du Japon. Valérie Dougnot a récemment publié aux éditions Félix Torres le guide des thés du Japon. Alors Valérie Dougnot, votre guide est le premier ouvrage de référence en français sur le sujet.
Oui, tout à fait. Il existait déjà quelques guides en anglais, mais en français, il n'y avait rien sur le thé du Japon, juste quelques pages dans les guides généraux sur le thé, mais rien de spécifique sur le Japon.
Alors à qui s'adresse ce livre ?
Un très large public, j'espère. D'abord les amateurs de thé japonais, puisqu'il y en a déjà, mais aussi un plus large public qui commence à s'intéresser au thé, mais qui, pour l'instant, n'a pas vraiment étudié les différents crus, alors qu'on découvre, quand on entre dans l'univers du thé, que chaque pays a ses spécificités, ses goûts. C'est vraiment un sujet passionnant qui peut emmener très très loin, comme le vin, je pense, pour les amateurs. Et puis, il y a aussi tout simplement les passionnés du Japon qui peuvent découvrir par ce biais-là un autre aspect de la culture du Japon.
Alors, pas de doute possible, le thé est né en Chine.
Alors, c'est toujours une grande question, une grande bataille entre les Chinois et les Indiens. Mais oui, géographiquement, c'est né dans les régions qui appartiennent actuellement à la Chine.
Comment le thé a rejoint le Japon ? Il est parti de Chine, comment est-il arrivé au Japon ?
Alors, c'est très intéressant, il est arrivé au Japon grâce aux moines bouddhistes qui étaient partis étudier en Chine et qui, de retour au Japon, ramenaient dans leur bagage d'abord des briques de thé à consommer et aussi des graines à planter au Japon. C'est comme ça qu'est née la culture du thé.
Ce qui est intéressant, c'est de noter que ce sont des moines bouddhistes japonais qui sont allés recevoir un enseignement bouddhiste en Chine. Et cet enseignement, c'était le bouddhisme Chan.
Alors, il y a eu un premier essai d'implantation du thé au 9e siècle par un premier moine. Alors, on n'était pas encore spécifiquement dans le bouddhisme Chan tel qu'on le connaît actuellement. Mais ensuite, donc, le fondateur véritablement du Zen au Japon, au 12e siècle, a ramené une deuxième fois, et cette fois avec succès, le thé au Japon. Et donc, c'est un personnage très important puisqu'il a à la fois implanté le Zen au Japon et le thé.
Et il s'appelle ?
Esai.
Ah ben voilà, ça va mieux en le disant. Quelles sont les caractéristiques du thé japonais ?
Alors la première fois que le public goûte le thé japonais, on a souvent des remarques assez étonnantes, disant qu'il a un goût d'herbe ou un peu iodé aussi. C'est vrai qu'il a un goût très différent du thé chinois, il est très rafraîchissant. Et il a vraiment effectivement un peu ce goût d'iode qui n'est pas étonnant puisque le Japon est quand même un chapelet d'îles. Et puis ce côté assez herbeux, donc il lui donne une fraîcheur assez particulière par rapport au thé chinois.
Quelle place a le thé dans l'histoire du Japon ?
Il a une place très importante. Ça a d'abord donc été la boisson des religieux. Par leur biais, par les cérémonies, ça s'est développé ensuite dans la société. D'abord dans les classes sociales élevées, puis à tous les échelons de la société. Et encore actuellement, boire un verre de thé, c'est vraiment une tasse de thé, c'est vraiment un geste quotidien. Alors malheureusement, les jeunes japonais ne savent plus comment préparer le thé. Donc il y a toute une éducation à refaire. Il y a des passionnés qui se dédient à ça, une association qui s'appelle les Nihonsha Instructors, qui sont comme des sommeliers en thé et qui essayent de réapprendre aux japonais à consommer le thé. Mais il fait vraiment partie de la vie quotidienne et c'est aussi la base d'un rituel esthétique et spirituel qui est le chanoyu, la cérémonie du thé.
Qu'est-ce qu'on appelle la voix japonaise du thé ?
Alors c'est justement ce dont je vous parlais, le chanoyu. C'est un apprentissage pour préparer et déguster le thé en poudre, donc qui était une des formes de thé ramenées de Chine, le thé en poudre battu avec un fouet dans un bol. Et cette dégustation, cette préparation s'est ritualisée. C'est encore une fois lié au bouddhisme, puisqu'il y a beaucoup de concepts qui ont été empruntés au Zen qu'on retrouve dans cette cérémonie. Alors, même si ceux qui pratiquent le chanoyu n'aiment pas le terme de cérémonie, trouvent ça un peu trop lourd. Mais donc c'est un rituel, on va dire, qui est à la fois spirituel, esthétique, puisque c'est le croisement des arts avec l'architecture de la maison de thé, les objets, et chaque geste aussi est codifié, ritualisé. Mais c'est à la base, finalement, principalement la rencontre entre deux personnes ou plusieurs personnes, entre le maître de thé qui officie et ses invités.
Alors le thé a un rapport avec la spiritualité, mais il a aussi un rapport avec la médecine ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, les premiers moines à avoir amené le thé au Japon insistaient beaucoup là-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est lié au thé dès l'origine. Les Chinois, d'ailleurs, ont commencé à consommer le thé comme un médicament. Au début, il ne devait pas avoir très bon goût. Il ressemblait plus à une soupe. On le mélangeait avec des oignons, des pelures de fruits.
Ah, le thé aux oignons, il fallait y penser.
Oui, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on consomme maintenant. Donc, c'était à la base plutôt un aliment et un médicament.
Alors, il y a un thé au Japon pour chaque moment de la journée.
Idéalement, oui, parce que certains thés sont plus forts en théine, donc il vaut mieux les consommer le matin. Certains vont s'adapter mieux à telle ou telle dégustation aussi. On va peut-être pas boire le même thé en mangeant qu'avec une pâtisserie. Et puis, il y a par exemple l'habitude, dès qu'on arrive au restaurant ou à la fin du repas, de se voir offrir un thé grillé qui va désaltérer et qui est en même temps très efficace pour les problèmes de digestion. Donc, ça aide à faire passer le repas. Donc, chaque thé a sa fonction et la meilleure heure du jour pour le consommer.
Thé grillé, c'est-à-dire ?
C'est un thé vert, puisque maintenant le Japon ne produit quasiment plus que des thés verts, même si certains essayent de renouer avec le thé rouge qu'on appelle noir chez nous. Mais il a été torréfié. Donc c'est absolument délicieux dans les boutiques de thé quand on arrive au moment de la torréfaction. L'odeur est sublime et ça lui permet d'être bu par tout le monde puisque ça fait partir une grande partie de la théine. Donc ça le rend beaucoup plus accessible aussi bien aux enfants qu'aux personnes âgées.
Donc le thé grillé a moins de théine. Oui. Voilà un truc à retenir intéressant. Et d'ailleurs dans votre livre, vous donnez des conseils pour préparer chez soi le thé japonais.
Oui, tout à fait. Chacun peut le préparer selon son goût. Hein. On n'impose pas de temps d'infusion. Il y a quand même des règles de base à suivre pour mettre le plus en avant possible les qualités du thé. Ça va jouer sur la qualité de l'eau qu'on va choisir, le degré d'ébullition. Même le choix du récipient peut être important aussi pour mettre en valeur le thé.
Alors l'eau, quelle eau ?
Il vaut mieux une eau qu'on appelle douce. Les Japonais parlent d'eau douce ou d'eau dure. Il vaut mieux une eau de source, par exemple.
D'accord.
Qui permettra de mettre en avant les qualités du thé sans qu'on sente trop le goût de l'eau en elle-même.
Et alors le récipient ?
Alors suivant les thés, justement, on va préférer une petite théière en terre cuite ou une porcelaine, ça dépend. La taille aussi du récipient peut être importante puisque certains thés vont être préparés avec moins d'eau et d'autres avec plus d'eau. Donc par exemple un gyokuro qui est le thé de plus haute qualité au Japon sera plutôt préparé dans un petit récipient en porcelaine.
Alors vous nous donnez aussi des idées dans votre livre pour marier le thé japonais avec la cuisine française. Et vous dites par exemple que le thé sencha est bien avec de la viande rouge.
Oui, donc on a eu envie de permettre au public français d'adapter le thé à sa consommation quotidienne, pouvoir l'adopter aussi pendant les repas et pas seulement pendant les repas japonais. Nous avons donc demandé les conseils d'un cuisinier parisien, Issa Takeuchi. Qui est
enfin, un parisien japonais.
Un parisien japonais, voilà. Il a un restaurant qui s'appelle Kaiseki, où il essaye justement de faire une cuisine qui marie la Kaiseki, donc la haute cuisine japonaise, avec la cuisine française.
Alors vous avez goûté, ça donne quoi ?
Ah, c'est absolument délicieux. Et ce sont des mélanges qui sont parfois surprenants, mais qui fonctionnent toujours très bien.
Bon, il faudrait essayer ça. Alors cultiver le thé au Japon, c'est une importante activité économique. Et donc on peut se poser la question de l'avenir du thé japonais aujourd'hui, après Fukushima.
Oui, c'est un gros problème. Tout de suite après le 11 mars l'année dernière, certaines régions se sont vues interdire la récolte et la distribution de leur thé, surtout les zones les plus proches de Fukushima. La zone de Shizuoka, qui est la plus importante région de production, a vu aussi certaines de ces zones interdites à la vente. Apparemment, maintenant, il n'y a plus de soucis selon les derniers tests, mais c'est encore toujours très, très contrôlé. Ça pose aussi des problèmes à l'exportation, puisque le thé doit d'abord être testé au Japon et ensuite de nouveau testé en France. Ça ralentit les démarches et l'envoi du thé. Et puis, il faut redonner surtout confiance aux consommateurs, leur dire qu'on peut consommer le thé en toute confiance, qu'il est testé, que si un produit passe normalement toutes ces étapes, c'est qu'il est vraiment sûr. Mais il faut vraiment redonner confiance aux consommateurs.
Alors justement, vous avez souhaité participer avec la vente de votre livre à la solidarité avec les associations humanitaires qui soutiennent les victimes de Fukushima.
Oui, c'était vraiment une volonté de ma part parce que j'ai cette passion pour le Japon. C'est un pays qui me tient beaucoup à cœur et j'ai réfléchi aux moyens d'aider. Il nous a semblé que le plus simple, c'était de prélever une partie de... Des fonds réunis avec le livre et de les envoyer à des associations qui travaillent directement sur le terrain dans la région de Fukushima.
Et d'ailleurs, au moment de Fukushima, vous étiez au Japon.
Oui, j'étais à Tokyo.
Et alors ?
Eh bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a été très, très secoués. Ça a été une expérience évidemment très difficile. En même temps, c'était très impressionnant à vivre et on en a beaucoup parlé, mais de voir ce calme des gens, la manière dont la situation a été gérée. Évidemment, ça a été aussi pour moi une remise en question de beaucoup de projets, donc ça a été une période très, très complexe, mais maintenant on essaye de passer au-dessus de ça et de voir vers l'avenir.
Votre thé préféré ?
Alors ça, c'est difficile parce que justement, suivant les
moments... Il y en a beaucoup dans votre...
Oui, puis vraiment, selon les cas, je préfère tel ou tel thé. J'aime beaucoup boire un thé grillé justement en fin de journée parce que c'est un thé de consommation courante, mais très, très agréable. Ou simplement un sencha, donc qui est le thé le plus répandu au Japon. Et puis quand on veut se faire un petit plaisir, un gyokuro. Et puis j'aime beaucoup le thé qu'on consomme dans la cérémonie du thé, le matcha, qui n'est pas forcément facile à préparer, mais dont je trouve le goût vraiment extraordinaire, assez surprenant, un peu amer. Mais pour moi, c'est certainement le thé que je préfère.
Pourquoi pas facile à préparer ? On ne met pas de l'eau dessus comme tous les autres ?
Alors donc on met la poudre de thé, un peu d'eau et on bat avec le fouet. Donc il faut s'entraîner et battre de la bonne manière. Tout est dans le poignet. Donc c'est un petit entraînement.
C'est comme la mayonnaise. Un conseil de thé pour ceux qui voudraient commencer, qui n'ont jamais goûté de thé japonais voilà.
Alors je pense que pour les débutants, ce qu'on appelle le Gain Matcha par exemple est très bien. C'est un thé aussi de consommation courante. Qui est un thé vert dans lequel on va ajouter du riz soufflé, du riz grillé. Donc cet ajout va un peu peut-être casser le goût en lui-même, mais ça permet une introduction assez simple au thé japonais. Ça accompagne très bien les repas aussi.
Donc le thé japonais, c'est aussi une introduction à la culture japonaise.
Tout à fait. C'est vraiment un sujet transversal. C'était vraiment très intéressant quand j'ai préparé le sujet, parce qu'il y a toute la partie historique, la santé, l'économie, la géographie. On peut vraiment aborder de nombreux aspects de la culture japonaise à travers le thé.
Et puis ce livre est très complet parce qu'en annexe, il y a des adresses au Japon de maisons de thé, de magasins où acheter du thé. Et puis pour ceux qui ne vont pas au Japon, il y a aussi des adresses en France.
Voilà, on a essayé de... D'abord, c'est un guide. Hein. Le format a été imaginé pour que les lecteurs puissent l'emmener avec eux dans les maisons de thé ou en voyage. Donc il y a mes petits coups de cœur au Japon et puis aussi en France, les endroits où on peut justement commencer à découvrir l'univers du thé japonais.
Et il y a même des sites internet.
Oui, ça se développe de plus en plus, il y a de plus en plus d'informations. Et on a créé aussi un blog autour du guide, hein, guidedetedujapon.com, où on essaye de réunir la communauté des buveurs de thé japonais.
Bon, et puis on va faire la seconde publicitaire que nous connaissons bien, nous, Valérie. N'est-ce pas, à Lille, il y a un endroit où déguster un excellent thé japonais, c'est la maison de thé Unami, qui est rue Saint-Jacques.
Tout à fait.
Voilà. Valérie Dougneau, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Le guide d'été du Japon, aux éditions Félix Torres.